Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte vraiment particulier, presque un journal de bord intellectuel.
Oui, c'est un article de blog de Julien Lecomte, et c'est un exercice assez courageux en fait.
C'est ça. Il a décidé de revenir sur les convictions qu'il avait à 20 ans et de raconter point par point pourquoi il ne les partage plus du tout aujourd'hui.
Le titre est d'ailleurs très direct. Ce à quoi j'adhérais quand j'avais 20 ans et comment j'ai changé d'avis. On ne va pas juste survoler ses conclusions, on va essayer de comprendre le mécanisme.
Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'une certitude, une idée qui paraît de bon sens, finit par voler en éclats? Et ces certitudes de jeunesse, ben, je pense qu'elles vont parler à beaucoup de monde. Il nous dit qu'il croyait dur comme fer à la méritocratie, au mythe du self-made man.
Le fameux « quand on veut, on peut ».
Voilà. Pour lui, la solution à l'insécurité, c'était simple. Plus de sévérité. Et les personnes sans emploi, des profiteurs, bien sûr. Ce sont des idées qu'on entend encore partout.
Tout à fait. Et ce qui est passionnant, c'est que ce n'est pas une conversion soudaine. C'est un long processus, nourri de faits, de lectures. Notre mission aujourd'hui, c'est de retracer ce cheminement.
Alors, allons-y. Commençons par le premier pilier qui s'effondre, la méritocratie. Cette idée que notre place dans la société est le juste reflet de nos efforts.
Il va même plus loin. Il qualifie ça de mythologie.
Une mythologie ?
C'est fort comme nous.
Oui, parce que pour lui, ce n'est pas juste une idée. C'est un récit, une histoire qu'on nous raconte en boucle et qui est martelée, dit-il, jusque dans les clips de rap. C'est une construction idéologique.
D'accord. Et il s'appuie sur des penseurs pour ça. Oui. Il s'appuie sur Bertrand Russell qui, déjà en 1932, écrivait que le travail acharné des uns sert surtout à garantir le confort et l'oisiveté des autres.
Ah oui, ça change complètement la perspective. On n'est plus dans « travailler plus pour gagner plus ».
Non, on est dans une vision systémique. Et il applique cette grille de lecture à un endroit qu'on imagine intouchable, l'école.
L'école, le grand égalisateur des chances.
C'est ça. Sauf que lui, chiffre à l'appui, l'a décrit comme une machine à reproduire les inégalités. Il précise que c'est particulièrement flagrant en France et en Belgique.
L'idée qu'on est tous sur la même ligne de départ est donc...
Pour lui, c'est une fiction. Le capital social, culturel des parents, ça pèse énormément.
Ce qui est fou, c'est que ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend sur la baisse de niveau et le fameux « c'était mieux avant ».
Totalement. Et il démolit cette idée avec un argument historique assez savoureux.
Ah oui, hein.
Il note que ce discours sur la jeunesse qui ne vaut rien, on le trouve déjà mot pour mot chez Platon il y a plus de 2400 ans.
Non, chez Platon vraiment? Donc ça fait plus de deux millénaires qu'on entend la même rengaine.
Exactement. Il appelle ça une amnésie révisionniste. Ça remet les choses en perspective, quoi.
C'est génial comme remarque. Ça décrédibilise d'un coup des tonnes d'éditoriaux.
Ça replace le débat, oui. Et ça nous amène au cœur de sa démarche. Il dit que son changement d'avis, ce n'est pas un passage du camp sévère au camp laxiste.
C'est plus pragmatique.
C'est ça. Il se demande pas ce qui est moralement bien, mais ce qui marche réellement pour réduire les inégalités. Et il nous pousse dans le retranchement avec une question toute simple, mais redoutable.
Laquelle ?
Il demande aux défenseurs de la méritocratie. Estimez-vous que vous faites 1 million de fois moins d'efforts que les multimilliardaires ?
Ouf ! La question pique. C'est impossible de répondre oui à ça de bonne foi.
Ben voilà. La démonstration est faite. Le mérite seul n'explique rien. Il lit ça à la théorie du ruissellement, cite un rapport d'Oxfam, et le constat est double. La méritocratie est un mythe, et les politiques qui s'en inspirent sont inefficaces.
D'accord. Le pilier économique du bon sens est à terre. Et cette idée que le système est plus fort que la volonté individuelle, il l'applique aussi à la sécurité, c'est bien ça?
Exactement. Il parle là aussi d'une idée sancle. Pour avoir l'ordre, il faut de la discipline, de la répression.
Le réflexe initial, quoi. Un problème, on durcit la loi.
Sauf que là encore, son analyse le conduit à la conclusion inverse. Il affirme que l'usage de la force est souvent inefficace et parfois même contre-productif. Il prend l'exemple du système carcéral.
On imagine la prison comme un lieu qui doit punir, mais aussi réinsérer.
C'est la théorie. Mais dans les faits, il explique que la prison isole plus qu'elle ne répare. Pire, elle peut devenir un accélérateur de délinquance.
Comment ça ?
Ben, un lieu où on se radicalise, où on découvre des drogues dures. En gros, on envoie quelqu'un en prison pour un problème et il en ressort avec trois. D'un point de vue pragmatique, c'est un échec.
Il ne dit pas qu'il faut plus punir du tout, si je comprends bien. C'est plus.
Non, non, c'est plus subtil. C'est que la punition seule, sans s'attaquer aux causes, c'est comme écoper l'eau d'un bateau sans réparer la fuite.
J'aime bien l'image.
Son exemple sur les tueries de masse aux États-Unis est très parlant. On peut condamner les tireurs, mais tant que l'accès aux armes reste aussi simple,
le problème persistera.
Voilà, la vraie solution efficace, c'est pas la sévérité après, mais l'action sur les causes avant.
Et il aborde un autre aspect, c'est le coût de ces politiques, pas seulement financier.
Oui, le coût pour nos libertés. La course à la sécurité peut mener à une surveillance de masse, à des lois qui restreignent les libertés de tout le monde. Et puis il souligne que ça cible souvent les mêmes populations.
Ce qui crée des discriminations, de la méfiance.
Et un climat de haine, l'exact opposé de ce qu'on recherche.
Ce qui est puissant, c'est qu'on voit que les deux piliers, méritocratie et sécurité par la force, reposent sur la même erreur. On blâme l'individu au lieu d'analyser le système.
Cette idée que le travail est forcément un labeur pénible, c'est le résultat d'un matraquage idéologique.
C'est-à-dire ?
Il revient à Bertrand Russell, qui disait qu'on a les moyens techniques de travailler beaucoup moins. On pourrait avoir plus de temps pour la culture, le sport. Mais on ne le fait pas, parce que l'oisiveté est suspecte. Quelqu'un qui ne travaille pas est vu comme un fainéant.
Voilà. Et c'est ce terreau qui permet au discours sur la fraude sociale de prospérer.
Justement, que dit-il de ce spectre de la fraude sociale qu'on agite tout le temps ? Il le décrit comme l'arbre qui cache la forêt. Sa méthode, c'est la mise en perspective. Il ne nie pas que la fraude sociale existe, attention.
D'accord.
Mais il nous invite à comparer. Comparons son coût avec celui bien plus massif de la fraude fiscale ou avec le manque à gagner pour l'État dû à la faible taxation des super-profits.
En gros, c'est une diversion. On nous fait regarder le voisin qui touche une petite aide pour qu'on ne regarde pas les milliards qui s'évaporent au sommet.
C'est précisément ce qu'il analyse. En focalisant le débat sur les petits fraudeurs, on évite d'avoir les conversations vraiment importantes sur la répartition des richesses.
D'accord. On a vu les trois grands changements, hein. Méritocratie, sécurité, travail. La question c'est comment, qu'est-ce qui déclenche un tel basculement ?
Alors, ce n'est pas une lecture un soir, non. Il utilise un concept qui vient des sciences de l'éducation, le conflit cognitif. C'est vraiment l'idée centrale.
Le conflit cognitif. C'est ce moment où notre vision du monde se fissure parce qu'elle n'arrive plus à expliquer ce qu'on observe.
C'est tout à fait ça. Un moment de crise intellectuelle. Il explique que son bon sens d'avant, ses croyances, n'étaient plus capables de décrire le réel. Les faits contredisaient ses opinions. Et c'est très inconfortable.
Il y a une citation qu'il utilise, non ?
Oui, de Gaston Bachelard, qui résume tout. « Face au réel, ce qu'on croit savoir clairement offusque ce qu'on devrait savoir. » Autrement dit, nos préjugés nous aveuglent.
Ce qui est touchant, c'est l'humilité de la démarche. Il ne dit pas « j'étais bête avant ». Il reconnaît que ses anciennes opinions partaient de préoccupations légitimes. L'égalité, la sécurité.
Exactement. Il n'a pas changé de valeur, il a changé d'analyse sur les meilleurs moyens d'y parvenir. Mais le conflit cognitif seul ne suffit pas toujours. Il identifie un autre facteur, plus sociologique, le besoin d'appartenance.
Ah, ça c'est intéressant. On n'adhère pas à des idées juste parce qu'elles sont logiques, mais pour faire partie d'un groupe.
Voilà. Faire partie de l'équipe des gens sérieux, qui ont les pieds sur terre, par opposition à l'équipe des utopistes. Et c'est un moteur extrêmement puissant.
C'est un coût social énorme de changer d'avis. Or, on risque l'exclusion.
C'est ça. Il cite la climatologue Julia Steinberger, qui explique que certains mouvements politiques gagnent parce qu'ils offrent avant tout un foyer émotionnellement accueillant, même avec des idées terribles.
Ce qui rend son propre parcours encore plus intéressant. Comment il a réussi, lui, à surmonter cet obstacle ?
Il identifie trois éléments clés dans son histoire. D'abord, très jeune, il a fréquenté des forums de discussion en ligne où il a pu débattre de manière apaisée.
Une sorte d'entraînement précoce.
Ensuite, son entourage familial, qui l'a toujours encouragé à trouver sa propre voie, sans lui imposer de carcan. Ça lui a donné la sécurité affective pour oser penser différemment.
Et le troisième ?
Et enfin, le facteur qu'il juge le plus décisif, ses études universitaires, sociologie, psychologie, économie. Ça lui a donné une boîte à outils pour analyser la société au-delà des simples opinions.
Donc si on résume, les forums ont préparé le terrain, la famille a fourni le cadre bienveillant, mais ce sont les études qui ont vraiment provoqué le conflit cognitif ?
Je pense que c'est une excellente synthèse de son parcours. C'est cette combinaison qui a rendu le changement possible.
C'est un témoignage vraiment puissant. Ça montre comment nos certitudes, même les plus ancrées, peuvent être remises en question par le dialogue, la connaissance et une bonne dose d'honnêteté.
C'est bien plus qu'un récit de changement d'avis. C'est un plaidoyer pour l'humilité intellectuelle. L'article suggère que changer de perspective, ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est le résultat d'une recherche sincère de ce qui est juste et surtout efficace.
Et ça nous laisse avec une dernière question en suspens, j'imagine.
Oui, l'article se concentre sur une évolution individuelle. Mais si le sentiment d'appartenance à une communauté est un moteur si puissant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un groupe entier, ou même une société, vive un conflit cognitif collectif ?
Et change radicalement d'avis sur ces grands enjeux ?
C'est une question qui reste totalement ouverte.